Donnez-vous les moyens de vivre de véritables victoires. Voici le titre du message d'aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu ensemble dans le livre de 2 Rois, au chapitre 13, à partir du verset 14 au verset 19. 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14 au verset 19. Lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main ». Quand il eut bandé de sa main, Élisée posa sa main sur les mains du roi et dit « ouvre la fenêtre vers l'est ». Il l'ouvrit. Élisée dit « tire alors ». Et il tira. Élisée dit « c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à les exterminer ». Élisée dit encore « prends les flèches ». Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « frappe contre terre ». Alors il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui, et il dit « fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que trois fois. Amen. » Dans l'histoire que nous partageons aujourd'hui, nous voyons le roi Joas venir vers l'homme de Dieu, car il a appris que ce dernier est atteint d'une maladie qui, malheureusement, va l'amener à la mort. Joas reconnaît la valeur spirituelle du prophète Élisée et il pleure la perte d'un tel homme. Le fait qu'il appelle Élisée mon père et qu'il évoque aussi par les paroles char d'Israël et sa cavalerie nous permet aussi de considérer le regard que Joas portait sur le prophète Élisée, la connaissance qu'il avait de la vie de ce prophète. Il s'était vraiment intéressé à ce que ce prophète avait vécu et la manière où Dieu l'avait appelé à ce ministère. Mais dans notre vie, il est aussi possible de rencontrer des hommes qui marquent profondément notre vie. Nous les considérons des personnes sages et empreintes de l'onction de Dieu, et ils deviennent pour nous un soutien, voire même un modèle. Mais j'aimerais partager avec vous aujourd'hui ces quelques sujets de réflexion qui ressortent un peu de ce texte biblique, car cela me semble important de ne pas commettre les mêmes erreurs et retomber dans les mêmes travers de ceux qui nous ont précédés. Première pensée, il est important d'être équipé et ne pas vivre d'emprunt. Élisée lui dit en effet « prends l'arc et des flèches » et le texte nous dit « il se procura un arc et des flèches ». Pardonnez-moi de dire de suite cela, aller au combat sans armes, c'est comme vouloir escalader l'Everest en sandales. Si d'une part Joas reconnaît en Élisée un serviteur de Dieu de valeur, reste le fait que dans sa vie personnelle, beaucoup de choses se passent par procuration. Il n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Il est donc incapable d'en connaître la volonté. Deuxième chose, il cherche la bénédiction de Dieu, mais par le biais d'Élisée. Troisième chose, il vit une situation de combat, mais il n'a pas d'armes personnelles et il est obligé d'emprunter les armes des autres. Or, cette même réalité est encore d'actualité de nos jours pour beaucoup, malheureusement, de personnes qui vivent et s'appuient les uns sur les autres et je dirais, ils font la recherche des béquilles humaines. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui empruntent les ressources et les outils spirituels d'autrui par manque de consécration et de persévérance. Il existe bien des circonstances qui nous font pleurer, qui nous mènent à exprimer notre souffrance et crier à Dieu comme les défis spirituels, matériels, la maladie, la persécution et encore autre chose. Mais la question est comment nous prenons-nous pour venir à bout de tout cela? Jusqu'à où sommes-nous prêts à aller pour prendre une victoire complète et définitive? Question. Êtes-vous comme Joas, qui vit une vie spirituelle d'emprunt ou par procuration? La deuxième pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est le risque de louper le coche. En effet, au verset 16, le texte de notre lecture nous dit que Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main ». Et quand il eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi. Et là, il lui donne un ordre « Ouvre la fenêtre vers l'est, la direction ». Il l'ouvrit et Élisée lui dit « Tire ». Et alors il tira. Élisée dit « C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel ». Nous sommes obligés de se dire que même en ayant un arc et des flèches, il lui fallait encore savoir quoi en faire et dans quelle direction tirer. Deuxième chose, il est question d'ouvrir la fenêtre. Et il est vrai que Dieu, dans sa bonté, nous ouvre une fenêtre. Mais excusez-moi de dire cela, ce n'est pas pour observer le panorama. La fenêtre que Dieu nous ouvre, c'est une fenêtre de tir, c'est une fenêtre sur laquelle, en effet, on a une occasion qui nous est accordée par Dieu, une grâce qui nous est donnée de saisir la victoire. Et il n'est pas question pour nous de perdre du temps ou d'utiliser cette fenêtre qui nous a été donnée pour un but qui n'est pas celui pour lequel elle a été donnée. Encore une fois, le prophète pose ses mains sur les mains du roi. J'en déduis que Dieu pose sa main sur nous pour joindre sa puissance à notre démarche de foi. Mais encore, frères et sœurs, il nous faut vraiment saisir la démarche de foi que Dieu attend de chacun d'entre nous. Du moment que nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous prions, et que nous agissons selon la volonté de Dieu, Dieu nous donne des instructions qui sont parfois déroutantes, certes. Parfois, il nous demande de faire des choses qui sortent de la logique humaine, qui ne sont pas explicables par la science, et que la sagesse humaine ne peut pas considérer et valider, parce que ça relève du miracle. Ça relève de l'action de Dieu. Et c'est dans ces actions-là, dans ce que Dieu nous demande de faire, qu'en réalité Dieu pose sa main sur nous pour vivre le miracle. Il est question pour le roi Joas de lancer une flèche dans une bonne direction. Mais, pour autant, il est question de prendre conscience d'abord de nos faiblesses et de notre pauvreté spirituelle. Et il est question d'être prêt aussi à une révision profonde et véritable de notre mode de fonctionnement, où nous risquons, en réalité, de repartir dans nos vieilles habitudes et nos travers. Puisque, une fois que le danger est écarté, en général, beaucoup reviennent à leur vie, à leurs habitudes. On entend cette phrase « J'ai toujours fait ainsi ». On le voit nous-mêmes aujourd'hui. Après cette période de confinement, combien reviennent à leurs anciennes habitudes en balayant d'un revers de main ces mois que nous avons passés dans des conditions assez compliquées et pour lesquelles encore aujourd'hui, n'oublions pas, il y a des hommes et des femmes qui meurent. Avec cela, il n'est pas question d'entretenir une pensée négative ou d'entretenir une peur ou d'entretenir... Non, mais il est question pour nous de tirer les bonnes leçons. Certainement, il y a des choses qui doivent changer. Puisque nos vieilles habitudes ont permis à un virus, oui, de venir causer une telle souffrance, il est question pour nous de trouver le juste équilibre. Et dans la vie spirituelle, il est question pour nous de ne pas repartir dans nos vieilles habitudes, mais de se dire, Seigneur, si tu as permis que je passe par telle épreuve, quelle est la leçon à en tirer? Quel est le changement que je dois apporter dans ma vie pour que je puisse passer de victoire en victoire et non pas de déboire en déboire? Il est important pour nous de nous approcher davantage de cette réalité, de la relation que Dieu veut avec nous. Si Joas est allé auprès d'Élisée, c'est parce que Élisée avait cette relation avec Dieu. Alors quel type de relation voulons-nous? Celle de Joas avec Dieu ou celle de Élisée avec Dieu? Attention, parce que par un mode de vie, je dirais, empreint de légèreté, qui n'est pas du tout spirituel, il fait partie aussi d'usage de ce monde qui se base sur la loi des opportunités. On peut parfois saisir des opportunités, ce n'est pas forcément la direction de Dieu. Et c'est ce qui fait que parfois on interprète très mal les choses et on ne comprend pas que ça n'aboutit pas comme on le pensait. Mais c'était vraiment la direction de Dieu? Ou avons-nous sauté sur une opportunité? Avons-nous véritablement reçu une parole venant de Dieu, une confirmation venant de Dieu? Ou est-ce que nous avons saisi juste une occasion de passage que nous avons certainement validée avec notre propre réflexion, sans rester à l'écoute de la volonté de Dieu et de la direction de Dieu? Et si cette occasion n'était qu'un piège? Alors que se passe-t-il quand on vit sur la loi des opportunités? Premièrement, on change de direction au gré des opportunités. Ce n'est pas une marche de foi. On avance en sautant sur les opportunités. Parfois, ces dernières sont des mines prêtes à exploser plus que des moyens de bénédiction. La question, c'est de vivre des opportunités fait de nous des opportunistes et non pas des disciples. Attention. Je vous rappelle comment Lot a saisi l'opportunité et il s'est fié à ce qu'il voyait et il a choisi l'opportunité qui était devant lui au lieu que Abraham a attendu que Dieu lui montre ce qu'il avait en réserve pour lui. La fin de l'histoire est bien connue de tous, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, nous avons souvent dans la parole de Dieu ce parallèle entre la démarche de la foi et la démarche de l'opportunisme. Quand Dieu nous accorde une fenêtre de tir, je voudrais vous dire, s'il vous plaît, ne loupez pas le coche. Saisissez cette fenêtre. Attendez que Dieu vous ouvre la fenêtre avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'on pourrait se blesser inutilement à vouloir lancer des flèches alors que devant nous, nous avons encore quelque chose qui empêche cette dernière d'atteindre le but. On peut parfois s'efforcer et mettre toutes nos énergies alors que nous avons devant nous plus qu'une fenêtre, voire même un mur. Et on est là et on frappe, mais le mur, il ne bougera pas. Le seul qui a autorité d'ouvrir les portes que personne ne peut ouvrir, c'est Dieu. Et croyez-le bien, quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. J'aimerais aussi, comme dernière pensée, troisième pensée, servez-vous de toutes les flèches du carquois. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa trois fois et s'arrêta. Voici encore un constat douloureux. Je garde ce qui me convient et j'avance. Quel risque, quel danger, quelle erreur! Joas, on pourrait se dire, mais il enchaîne les erreurs. Mais Joas agit dans un but et dans une inquiétude qui est la sienne, qui est celle de remporter une victoire. Mais il oublie la réalité. Il oublie comment être un enfant de Dieu victorieux. Joas cherche une solution à un problème immédiat. Mais il oublie qu'après cette bataille, il y en aura certainement d'autres. Et comme le prophète Élisée est à la fin de ses jours, comment fera-t-il après? Si aujourd'hui nous avons trouvé, excusez-moi de reprendre ce terme, une béquille humaine qui nous donne la solution, qui nous apporte la réponse et qui il interpelle Dieu pour nous, qu'est-ce qu'il en sera le jour où cette personne déménage? Le jour où cette personne retourne à ses autres occupations? Le jour où cette personne, elle va auprès de Dieu? Serons-nous encore une fois à la recherche d'une autre personne? Et ça veut dire chercher des directeurs de conscience. Et la Bible, ce n'est pas ce qu'il nous enseigne. Alors, avec cela, comprenons bien. Il n'est pas question de dire on a besoin du conseil de personne. Ça serait aussi une erreur. Mais le fait d'avoir le conseil, le fait de pouvoir en discuter, le fait de demander même du soutien dans la prière, de partager pour pouvoir mieux comprendre, mieux saisir. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à déceler tout seul et on a besoin d'aide. Ça, c'est tout à fait juste. Et je dirais même, c'est conseillé. Mais attention à ne pas chercher auprès de Dieu la solution et d'aller la chercher auprès des hommes pour que ces personnes, ces hommes, ces femmes, aillent auprès de Dieu à notre place. Pourquoi se priver de cette relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'il fait en réalité qu'on ne va pas à Dieu? Serait-il une situation de péché dans notre vie? Le fait d'être conscient d'une situation qui n'est pas selon le désir, selon la volonté de Dieu, certes, peut nous mettre mal à l'aise. Et à un certain point, se dire « mais je ne peux pas m'approcher de Dieu dans ces conditions » et c'est dit à juste titre. Mais la solution, ce n'est pas de chercher quelqu'un qui aille auprès de Dieu pour nous, mais c'est de régler notre problème. La deuxième situation, je dirais la deuxième pensée, c'est celle qu'en effet, on ne va pas directement parce que ça nous prend du temps. Ça nous demande des énergies. On est obligé de renoncer peut-être à d'autres programmes. Et encore cela, c'est une grave erreur. Parce que ça veut dire que Dieu n'a pas la première place dans notre vie. Peut-être mes paroles aujourd'hui peuvent sembler trop directe, voire même dérangeante. Mais je pense à ce que la Bible dit, c'est la vérité qui nous libère. Et si on a besoin d'entendre certaines vérités, il faut aussi que ces vérités soient dites. Maintenant, si on n'est pas concerné par cela, tout va bien. Mais par contre, si cette vérité touche un point sensible dans notre vie, on est obligé de régler le problème. On ne pourra pas dire à Dieu « je ne le savais pas » puisque je pense que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et au fond, chacun le sait déjà. Si aujourd'hui peut-être les choses sont dites à haute voix, néanmoins, certainement Dieu les a déjà dit au plus profond de notre cœur. Chercher une relation personnelle avec Dieu est la chose la plus importante. Il nous sera dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, tout le reste vous sera donné par-dessus. Cette volonté de Dieu de nous donner plus que nous pouvons penser, imaginer ou même planifier est liée aussi à cette relation profonde avec Dieu qui nourrit notre foi. Parce que mieux je connais Dieu, plus je connais Dieu, et je dirais avec beaucoup plus d'ardeur, de foi, de conviction, je m'attendrai à la réponse de Dieu et je ne ferai rien que Dieu ne me l'ait pas dit. C'est une manière aussi de protéger notre vie spirituelle, de protéger notre cœur, de protéger notre âme. Mais si j'évite cette relation avec Dieu avec des excuses, si je cherchais toujours une excuse pour ne pas prendre le temps de lire sa parole, si je cherchais une excuse pour ne pas prendre le temps de prier, si je cherchais une excuse pour ne pas prendre le temps de me retrouver dans la communion fraternelle avec les uns et les autres. Hein, les excuses, on en a toujours. Et on a toujours quelque chose, entre guillemets, de valable. Mais devant Dieu, est-ce que nos excuses sont véritablement si importantes de nous enlever ce moment de cœur à cœur avec Dieu? Je pense qu'en réalité, rien devrait prendre la place de Dieu dans notre vie. Joas a enchaîné beaucoup de mauvaises décisions. Joas, malgré les indications qui lui sont données par le prophète Élisée, on voit aussi qu'il manque de sagesse spirituelle. Il frappera 3 fois. Et après, il s'arrête. J'ose dire que parfois, une fois reçu la pensée de Dieu, il y a certaines choses qui sont faites de manière presque classique, répétitive. J'en donne quelques définitions. J'ai entendu ce qui m'a dit, mais je fais ce qui me semble le mieux. J'ai entendu ce qui m'a dit, mais cela ne me convient pas, donc je repars à la recherche d'une autre personne qui puisse me dire ce que je dois faire ou ce que je veux entendre. Et parfois, je cherche une solution, mais je ne suis pas prêt à vivre un changement. Je ne dis pas que c'est pour la totalité que ça se passe comme ça, mais très souvent, et je vous le dis sincèrement, c'est triste. C'est triste parce que on voit la personne repartir avec ses mêmes problèmes. On voit la personne repartir avec les mêmes fardeaux. Et on sait constamment, on sait malheureusement, qu'elle va errer pendant X temps, mais elle ne vivra jamais une véritable victoire. Faisons bien la différence entre vaincre une bataille et vaincre la guerre. Vaincre une bataille, ce n'est pas la même chose que vaincre la guerre. Remporter une bataille sur la tentation, ce n'est pas vaincre le tentateur. Remporter une bataille contre le péché ne nous rend pas immunes aux traits enflammés de l'ennemi. Je dis et j'affirme que la véritable victoire est en Christ, dans son exemple de vie, mais aussi dans son exemple de mort. La véritable solution est dans notre soumission à Dieu et non pas aux opportunités. La véritable solution est dans un changement profond qui ne peut se produire qu'au prix de la mort de soi-même et d'une nouvelle vie en Christ. La victoire se remporte sur le terrain que Dieu a préparé pour nous, avec les armes qu'il a forgées pour nous, avec sa méthode et sa vision, ainsi que sa détermination. J'aimerais terminer par une dernière chose. Le texte nous dit que Élisée fut indigné de l'attitude du roi. Faisons attention à ne pas indigner Dieu par nos actions, mais soyons des disciples responsables. Soyons des hommes et des femmes qui ont compris pleinement l'amour dont Dieu a fait preuve en offrant Jésus, l'amour de Jésus dont il a fait preuve en donnant sa vie, et l'amour que Dieu attend et désire de notre part, qui est celle de le mettre à la première place dans notre vie. Nous pouvons parfois vaincre des victoires, certainement, et Dieu merci, mais faisons attention, le but c'est de vaincre la guerre. Il arrive parfois de discuter avec des personnes et de partager des moments de témoignage. Et je ne vous cache pas que parfois je suis étonné de certains témoignages qui datent de très loin dans la vie de la personne. Et je suis parfois dans cette pensée, et j'espère ne me tromper, mais je me dis, quand est-ce que c'est la dernière fois que cette personne a vécu une victoire avec Christ ? Parce que si on est obligé toujours de remonter très loin dans le temps, ça veut dire qu'il y a un problème profond. Ça veut dire que depuis un certain temps, on n'a plus la même relation avec Dieu. Et si c'était le cas, et si le constat est celui-là, la véritable réponse à ce problème n'est pas de chercher quelqu'un d'autre qui puisse nous donner encore une fois le goût à la victoire ou quelqu'un qui puisse nous fournir une solution. Mais c'est de retrouver cette relation personnelle profonde, cette relation que nous avons vécue au début peut-être de notre conversion, où zélé pour le Seigneur, on était prêt à tout faire, où tel était le feu dans notre cœur et la joie d'avoir rencontré Jésus que le temps, on ne le voyait pas passer à chaque fois qu'on ouvrait notre Bible ou qu'on se retrouvait dans la prière ou qu'on était à l'église. Quand nous allons à l'église où nous lisons la Bible, où nous prions et nous regardons continuellement notre montre, quel message donnons-nous à ce Dieu qui a tout mis en œuvre pour nous sauver, pour nous aimer, pour nous appeler? Presque à dire, voilà, j'ai un peu de temps à te donner, quelques miettes. Je suis tellement occupé que je peux te donner que ça. Qu'est-ce que Christ nous a donné? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que Dieu nous a préparé? Sont-ils les miettes ou est-ce qu'il nous a invités à sa table? Le message d'aujourd'hui n'est pas dans le but d'attrister. Le message d'aujourd'hui est vraiment dans la volonté, dans le désir de ne pas faire l'erreur de revenir peut-être à un fonctionnement qu'on a connu il y a des mois en arrière. Pendant ces mois où on a été en confinement, j'ai entendu par plusieurs: ah, on s'est réjoui, on a pris beaucoup plus de temps avec le Seigneur. On s'est fait du bien malgré la situation, on a senti Dieu nous porter, et je le crois. On l'a vécu, mais je ne veux pas qu'on parle de ça au passé. Je crois qu'on doit en parler au présent et au futur, n'est-ce pas? Nous devons pouvoir dire encore aujourd'hui, Dieu m'a parlé, m'a donné la direction, une vraie direction. Non pas une opportunité, une direction de Dieu. Et si encore la fenêtre ne s'est pas ouverte, frères et sœurs, continuons à prier. Attendons-nous, Dieu ouvrira la fenêtre au bon moment. Dieu posera ses mains sur les nôtres au bon moment pour que ce que nous allons faire, ce qu'il nous demande de faire, puisse apporter la réponse opportune. N'ayons pas peur de rester dans cette attitude d'aller encore plus loin. Ne nous arrêtons pas à trois fois. Ah, j'ai prié trois fois, ça sera plus que suffisant. La Bible nous dit de persévérer. Jésus nous invite à être dans cette persévérance, dans cette foi, dans cette attente. Alors, je voudrais vraiment vous encourager. Chacun d'entre vous, et croyez-moi, ce message, je le partage, mais je l'ai reçu pour moi déjà en premier. Et je crois qu'on a tous à cœur et envie de vivre des véritables victoires. Alors, il faut nous en donner les moyens. Prenons le temps. Prenons le temps de prier. Prenons le temps de nous encourager les uns les autres. Prenons le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Que le Seigneur vous bénisse.